Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Le journal, présenté par Billy Van Lutumba.
Les tirs d'armes légères et lourdes continuent à se faire entendre dans le massif à Kibumba et Buhumba. Les rebelles du M23 s'affrontent avec les groupes armés locaux alors que l'armée empêche le M23 qualifié des terroristes par le Kinshasa de bouger des lignes telles que constatées à l'annonce du cessez-le-feu. En marge de la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre des journalistes, le 2 novembre, l'association congolaise des femmes de la presse écrite, ACOFEP, avec d'autres associations professionnelles des médias, plaide pour la reconnaissance d'une catégorie des journalistes assassinés au rang des martyrs de la liberté de la presse. Prince Kaumba, un des orateurs au colloque international organisé à Lubumbashi par l'Association des études africaines d'Afrique relatif au rapatriement des œuvres d'art emportées par l'Europe coloniale. Il est invité de ce journal et nous en parlons avec lui. Sous peu, découvrez les autres aspects de l'actualité du Congo profond. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Au Nord Kivu, les combats se poursuivent ce mercredi dans la zone ouest des groupements Kibumba et Buhumba. Cela fait 5 jours aujourd'hui que ces violents affrontements intermittents opposent les FRDC et les groupes armés locaux aux rebelles du M23. Les forces engagées font systématiquement recours à des artilleries lourdes des deux côtés. Bernadette Nyangi.
Depuis plusieurs jours, les rebelles du M23 tentent de déborder l'armée congolaise par le versant est du volcan Iragongo, dans le parc de Virunga pour attaquer la ville de Goma ou occuper d'autres positions de l'armée, affirme le porte-parole du gouverneur militaire. La riposte de l'armée ne se fait pas attendre, dit le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, justifiant ce violent combat de ce mercredi au 5e jour de la reprise des hostilités dans la zone du parc ouest de Kibumba et Buhumba. Ce mercredi, des tirs d'artillerie lourdes sont entendus, indiquent des sources dans la zone. Si les deux parties ne livrent pour le moment aucune information sur le bilan, plusieurs sources parlent des pertes énormes. Pendant ce temps, quelques centaines de voyageurs sont bloqués comme otages entre les deux positions avancées de l'armée congolaise vers Kanyamaoro au sud et celle de rebelles vers 3 antennes à Kibumba au nord, en sachant que tout trafic est interrompu dans la zone. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Le nouveau commandant de la 22e région militaire est arrivé hier mardi à Lubumbashi. S'adressant à la presse, le général de brigade Eddy Kapenda a rappelé à ceux qui font la politique à ne pas confondre la politique et la défense. Il a aussi épinglé la sécurité de la population qui est comptée parmi ses missions. Jean Gandou.
À peine qu'il a foulé le sol louchois, le tout nouveau commandant de la 22e région militaire a tenu à rappeler que lui et son équipe sont venus pour participer à la défense de la patrie à travers les frontières de sa juridiction. C'était avant d'ajouter ceci.
Lorsque nous tous parlons le même langage, nous allons assurer à notre population la paix et la sécurité. Ceux qui ne veulent pas comprendre que la politique, c'est pas la défense, nous devons faire la différence. Ceux qui font la politique, qu'ils fassent la politique dans le respect des lois. Et celui qui touche au domaine de la défense, celui qui touche au domaine de la sécurité, il va menacer la sûreté de l'État. Et par conséquent, l'armée, la police, les services de sécurité et la justice vont s'occuper de ça.
Au sujet du processus électoral, le général de brigade Eddy Kapenda a appelé tout le monde au calme et a indiqué que la période électorale ne devrait pas être émaillée des tensions comme on l'observe actuellement. Notons que la date de la cérémonie de la prise d'armes, qui devrait consacrer sa prise de fonction officielle, n'est pas encore connue. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
En plus bref, 18 membres du ministère de la Restauration à partir de l'Afrique noire du prophète Paul Joseph Mukungubila et 7 membres du mouvement Bundudia Congo ont recouvré leur liberté hier mardi après leur incarcération pour mouvement insurrectionnel pour les faits qui se sont déroulés le 31 janvier et 1er février 2007 pour les adeptes de BDK et 11 mai 2010 et le 30 décembre 2013 pour ceux de Paul Joseph Mukungubila. Le ministre des Droits Humains chargé d'exécution de l'ordonnance de la grâce présidentielle leur a accordé à présider la cérémonie de leur libération à la prison centrale de Makala Seperka et à la prison militaire de Ndolo. La même cérémonie se poursuivra prochainement à Angenga dans l'Équateur où se trouvent d'autres détenus de BDK. Journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes, c'est déjà ce jeudi 2 novembre. Ici à Kinshasa, 22 journalistes sont assassinés depuis 1994 jusqu'en 2021. L'Association congolaise des femmes de la presse écrite, ACOFEP, avec d'autres associations professionnelles des médias, ont fait ce mercredi 1er novembre le plaidoyer pour la reconnaissance de ces journalistes au rang des martyrs de la liberté de la presse. Paul Matendo.
Une justice équitable n'a jamais été rendue et les auteurs de ces crimes n'ont jamais été poursuivis. Ils vivent tranquillement chez eux, entre-temps les enfants sont en train de souffrir de la perte de leur papa, leurs parents et consorts. C'est pourquoi je loue cette initiative de l'association ACOFEP pour ces combats qu'ils sont en train de mener pour que enfin une reconnaissance leur soit rendue. Et ça sera un moment pour rendre hommage et que nous, victimes aussi, que nous nous sentions soulagés. Ça va nous apaiser. C'est pourquoi je demande à tous les acteurs concernés de prendre conscience et que ces combats puissent avoir un résultat positif.
Là, vous venez de suivre la représentante de ACOFEP. En Mbujimayi, au Kasaï oriental, vive tension ce mercredi dans les parties est et sud de la ville de Mbujimayi. Plusieurs jeunes désœuvrés de certains quartiers des communes de Djoulou et Mouya ont été dans les rues ce matin jusqu'à la mi-journée. Ils protestent contre l'arrestation hier mardi par la police d'un chef de bande de quelques jeunes désœuvrés qui sèment la terreur sur la ville à travers des affrontements à l'arme blanche. Les éléments de la police déployés sur terrain ont tiré plusieurs coups de feu pour disperser les manifestants. Esther de la Fina.
Plusieurs jeunes désœuvrés de quartier Konga, Dipa, Croix-Rouge, Ngele Kamukendi, Kalamba Inzevu, ceux d'une partie du quartier de la Poste et de la place Moaloussé, Ozana et Kemek ont été dans les rues ce mercredi matin. Ils protestent contre l'arrestation ce mardi par la police d'un chef de bande de quelques jeunes désœuvrés qui sèment la terreur sur la ville à travers des affrontements à l'arme blanche. D'après les sources sur place, ces jeunes ont érigé des barricades à plusieurs endroits sur l'avenue Kalonji et à la place appelée Machipicha en allant vers la place Moaloussé dans la commune de la Mouya. La même source précise que quelques passants non dénombrés sont victimes de projectiles. Contacté, le maire de la ville de Mbujimayi affirme que les éléments de la police ont été déployés sur place pour rétablir la circulation. Des coups de feu ont même été entendus. Certains habitants de ce quartier parlent de deux personnes mortes. Difficile pour l'instant d'affirmer ou de confirmer cette information, l'autorité urbaine dit attendre les rapports de la police et d'autres services de sécurité qui sont actuellement sur le terrain. Esther Dalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Plaidoyer des bourgmestres de la ville de Kinshasa auprès du président de l'Assemblée nationale pour leur situation salariale et l'insécurité dans leur commune. Les bourgmestres des 24 communes de Kinshasa et leurs adjoints ont échangé hier mardi avec Christophe Mbosso en compagnie du deuxième vice-président Vital Muhimu Banyuesize dans la salle des conférences des présidents du Palais du Peuple tard dans la soirée. Au menu de leurs échanges, la situation politique avec le processus électoral en phase, les problèmes d'insécurité dans les communes de Kinshasa et le non-paiement du salaire des bourgmestres. Les détails avec vous, Michel Kifindangoy.
Après cette entrevue de près d'une heure, le porte-parole des bourgmestres de Kinshasa salue l'implication du président de l'Assemblée nationale à résoudre les problèmes d'insécurité dans leurs communes et des salaires des bourgmestres.
Nous sommes contents parce que il est la personne la mieux placée pour plaider notre cas. Nous pensons que nous avons déjà la solution à la grande partie de nos problèmes. Aujourd'hui, il y a autant de kilomètres de routes qui sont construites. C'est vrai. La situation était grave, mais nous ne pouvons pas dire que la situation est restée à un niveau statu quo. Non, pas du tout.
Pour sa part, le président de la Chambre basse du Parlement salue la démarche des bourgmestres, surtout en cette période de pré-campagne. Christophe Mbosonkodia.
Ce sont des bourgmestres qui tiennent la ville. Et nous sommes à un moment de pré-campagne. Les bourgmestres ont sollicité un rendez-vous que j'ai accordé immédiatement. Nous avons parlé des problèmes qui le concernent, eux, au premier point. Ensuite, nous avons parlé de la sécurité dans la ville de Kinshasa. Et enfin, nous avons parlé de la politique, essentiellement de l'Union sacrée.
Christophe Mbosso invite par ailleurs les bourgmestres à plus de vigilance et de loyauté envers le président Tshisekedi, surtout en cette période électorale.
Le Fonds national d'entretien routier FONER poursuit avec le financement des travaux des routes dans la province du Sud Kivu. C'est notamment les routes nationales RN2 et RN5. Confirmation du directeur général du FONER qui est en mission au Sud Kivu. Pour Pierre Bundoki Ndongala, le FONER, même sans un seul poste de péage route au Sud Kivu actuellement, dispose d'autres ressources comme la redevance sur le carburant. Emmanuel Elamejiwa Kabedi nous en parle.
Le Fonds national d'entretien routier affirme financer tous les besoins lui exprimés par l'Office des routes ainsi que l'OVD. Pierre Bundoki Ndongala, directeur général.
Le FONER, c'est la banque de la route. Le FONER vient financer les besoins exprimés par l'Office de route et l'OVD validé par le ministère national des travaux publics. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, le FONER finance des travaux sur la route nationale numéro 2 et sur la route nationale numéro 5. Au Bouka, vous n'êtes pas coupé d'ouvrir parce que je viens d'ouvrir.
Pendant ces temps, le FONER ne dispose d'aucun poste de péage sur les routes du Sud Kivu. Pierre Bundoki indique que le FONER ne peut pas placer un poste de péage sur une route en délabrement.
Aujourd'hui au FONER, il y a une réflexion stratégique pour savoir comment on va gérer les péages de demain. Parce que ce qui a été fait avant aussi a présenté ses limites. Les postes de péage participaient plus à l'enrichissement personnel qu'à financer les travaux d'entretien routier. Je suis content que depuis que je suis à Bukavu, les gens demandent que le FONER reprenne les postes de péage. Mais le FONER ne mettra pas des postes de péage sur des routes en mauvais état. Si on identifie des routes où des péages devront être installés, on doit d'abord financer l'entretien de ces routes-là avant d'y mettre des postes de péage.
Parmi les ressources du FONER figurent la redevance sur le carburant terrestre, le péage international et autres. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Toujours dans le Sud Kivu, le gouvernement japonais, à travers son projet de fonds de résilience communautaire et inondation post-Covid-19, vient de former 320 jeunes et femmes issus des 17 quartiers et groupements incorporés de la ville d'Uvira dans la fabrication des pavés ou des pierres artisanales. Cette formation de plus de 6 mois s'est clôturée au mois d'octobre 2023. Une équipe du PNUD qui accompagne ce projet s'est entretenue hier avec l'autorité urbaine d'Uvira dans le cadre de suivi et évaluation de ce projet qui facilite la réinsertion socio-économique des jeunes désœuvrés. Fiston Goma.
L'inspiration est venue du Burundi voisin où plusieurs routes secondaires sont pavées dans la ville de Bujumbura. L'ONG internationale Terra Renaissance, partenaire d'exécution du PNUD, a tenté de redire cette expérience à Uvira en faveur des jeunes et des évreux. La responsable de la société civile Force Vive, Godelive Lugambo, qui s'est rendue sur les sites de fabrication de ces pavés dans la chefferie de Bavira, s'est dit satisfaite du résultat obtenu de ces projets.
Faire des pavés, vraiment c'est une innovation et c'est un besoin. Cette action-là amener de rémunération auprès de ces jeunes, puisque Uvira est en chantier. Nous félicitons cette action et nous demandons à d'autres partenaires de venir dans des différents domaines.
Ces pierres artisanales taillées au niveau des carrières au pied des montagnes surplombant la ville sont actuellement utilisées dans les revêtements de la route Mwami, une route secondaire qui est en pleine réhabilitation. Le bénéficiaire direct de ces projets souligne avoir touché $120 américains par mois chacun pendant la période d'apprentissage et de production de ces matériaux de construction. Les coordonnateurs de ces projets supplémentaires japonais au sein du PNUD, Faria Matondo, souhaite que les jeunes soient accompagnés dans l'apprentissage des autres métiers sur les infrastructures et travaux publics. D'Uvira, Fistongo Mamayaba, la Radio Kapi.
En séjour à Kananga, la chef de la coopération dans l'ambassade de la Suède a visité hier mardi le site de Chilumba où sont installés les retournés d'Angola. Sur ce site, à une dizaine de kilomètres de Kananga, le ACR y a construit des abris pour 500 ménages dans le cadre du projet sur la villagisation. Celui-ci vise la protection et l'assistance multisectorielle en faveur des rapatriés, refoulés, déplacés internes et populations hautes extrêmement vulnérables dans le Kasaï central. François Kadima.
La Suède fait partie des partenaires d'appui à travers les agences des Nations Unies aux différents projets exécutés au Kasaï central. C'est dans ce cadre que la chef de la coopération à l'ambassade de la Suède en RDC et sa suite sont à Kananga pour évaluer l'impact de différents programmes. Avec le ACR, elle a visité le site de Chilumba où 500 abris ont été construits par cette agence. Les rapatriés qui habitent avaient fui vers l'Angola lors de violences liées aux événements de Kamuina Nsapu. retournés, ils disent avoir encore des besoins qu'ils ont présentés à la chef de la coopération en ambassade de Suède en RDC.
La sécurité alimentaire et sanitaire ne sont pas assurés. La scolarité et les abris non conformes aux normes logistiques et humanitaires. Rien ne nous est donné comme la cache monétaire pour la prise en charge.
Revenant sur l'heure de lance lui présentée, la chef de la coopération en ambassade de Suède a indiqué ceci.
Ça nous intéresse beaucoup, en fait, merci beaucoup pour ce résumé aperçu sur la réalité de votre vie ici. Ça va nous beaucoup aider dans notre travail.
Notons que la chef de la coopération en ambassade de Suède en RDC visite également à Kananga d'autres projets exécutés notamment par l'UNICEF et les autres agences. De Kananga, François Kadima, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le roi Charles III a rencontré mercredi les anciens combattants kenyans des deux guerres mondiales au deuxième jour de sa visite dans ce pays d'Afrique de l'Est où il a condamné la veille les inexcusables abus coloniaux britanniques sans toutefois demander pardon. Cette absence de demande de pardon a été notamment déplorée par la Commission kenyane des droits de l'homme, une ONG qui avait demandé au roi des excuses publiques inconditionnelles et sans équivoque. Et puis, un tribunal ougandais a condamné mardi deux époux américains à une amende de $29,000. Les trentenaires Nicolas et Mackenzie Spencer étaient initialement accusés de torture contre leur enfant adoptif. Lors d'une perquisition à leur domicile, les policiers ont affirmé avoir trouvé des images des vidéosurveillances montrant que l'enfant était contraint de s'accroupir dans une position inconfortable, qu'on ne lui servait que de la nourriture froide et qu'on le faisait dormir sur une plateforme en bois sans matelas ni literie.
L'invité.
L'invité de ce journal est le professeur Prince Kaoumba, un des orateurs au colloque international organisé à Lubumbashi par l'Association des études africaines. Il parle de la question relative au rapatriement des œuvres d'art emportées par l'Europe coloniale. Il s'entretient avec Jean Gando.
Professeur Kaoumba, bonjour.
Bonjour.
Professeur, à ce stade, est-ce que la RDC est prête à accueillir les œuvres d'art qui ont été ramenées de force en Europe?
Les objets de notre culture, une bonne partie de notre patrimoine, c'est-à-dire des éléments objectifs de notre identité et de notre dignité et de notre histoire, sont partis à l'étranger, à la suite du contact brutal entre les colonisateurs et nous. À travers l'histoire, chaque fois qu'il y a des contacts de ce genre, eh bien, les victimes, les pauvres, les faibles subissent des opérations de dépouillement par ceux qui viennent les occuper. Après autant d'années, ça peut être autant de siècles, l'histoire se redresse, les peuples qui avaient été affaiblis grâce à leur résistance, ils renaissent de leurs cendres, et ces peuples-là, la première chose qu'ils font, c'est de tout faire pour rentrer en possession de leur patrimoine, pour reconstituer leur identité et leur dignité. Parce qu'il y a des biens qui étaient partis vendus, d'autres avaient été arrachés, d'autres avaient été des dons. Alors comment distinguer tout ça? Seulement, il faut des spécialistes pour pouvoir décanter cette situation. Les spécialistes, ce sont des gens qui ont fait des études d'histoire, des études de muséologie, des études d'archéologie, des études d'anthropologie. Ce sont ceux-là qui doivent nous aider à déblayer cette situation. Or, nous ne finançons pas suffisamment les œuvres des cultures, nous ne finançons pas suffisamment la production ou la formation des spécialistes dans le domaine. Aujourd'hui, combien de gens seraient disposés à confier leurs enfants, leurs frères, au département d'histoire dans une université? Il y en aura combien? Combien de gens seraient disposés à orienter des jeunes doués vers l'étude de l'anthropologie, vers l'étude de la philosophie, et ainsi de suite? Donc, il faut des projets, des financements de ce genre d'études si nous voulons garantir un processus convenable de restitution de ces biens. Alors, on évoque le problème des musées, mais le principe est que les biens volés doivent être restitués, par exemple. Ça, on ne peut pas en discuter. Il ne faut pas dire, non, on ne va pas vous restituer des biens volés parce que vous ne savez pas où cacher la machette qui avait été volée. Non, ceux qui réclament prendront des précautions pour créer des conditions de conservation des biens qui auront été volés.
Il y en a qui pensent que les œuvres peuvent rester là où elles sont, mais c'est question que les pays s'entendent pour voir dans quelle mesure ils peuvent avoir des contreparties, notamment pour ceux-là qui iraient visiter ces différents musées.
Dans les négociations, on doit savoir d'abord que les propriétaires, les auteurs de ces œuvres-là doivent rentrer dans leurs droits. Et puis l'autre partie de la négociation vient comme une partie subsidiaire. subsidiaire et non pas comme un préalable. Il faut d'abord accepter les principes et puis dans les modalités, on dit, bon voilà, ces objets-là, nous les avons en des milliers d'exemplaires, on en laisse autant chez vous parce que nous sommes dans un monde qui échange. Il faudrait aussi que les gens chez vous sachent qu'au sujet de tel objet, il y avait eu tel problème, mais que les gens s'étaient entendus, qu'ils avaient accepté de se réconcilier, qu'ils avaient accepté de vivre ensemble. C'est pourquoi nous prenons dans tout ce processus le recours à la philosophie de l'Ubuntu.
Mais dans tout ça, professeur, pensez-vous que le peuple congolais soit suffisamment initié sur la visite des musées? Parce qu'on en a ici à Lubumbashi, très peu y vont. Ces œuvres, une fois rentrées, qui va commencer à les visiter?
Il ne faut pas croire que la visite des musées est un élément spontané. C'est un élément de culture. On doit former les gens à fréquenter les musées. Et quand les gens sauront que pour bien comprendre tel élément, il faut aller au musée, beaucoup de gens qui sont dans la ville de Lubumbashi ne savent pas, par exemple, que le catafalque sur lequel on avait exposé la dépouille mortelle de Demzé est au musée. Si vous allez au musée de Lubumbashi, vous allez vivre cet événement. Vous voyez le catafalque sur lequel on avait exposé la dépouille de devant le bâtiment du 30 juin. C'est le professeur Donatien Mouya Abitanko, qui était directeur du musée à l'époque, qui s'était rendu compte que tous les officiels qui s'étaient recueillis étaient partis, avaient abandonné le catafalque. Et lui avait compris le sens de ce catafalque, il l'avait récupéré et il l'avait installé au musée. Vous allez au musée, vous allez trouver ce catafalque. Il y a une chaise qu'occupait Mzé ici, quand il venait ici au bâtiment du 30 juin, où ce siège se trouve au musée. Donc, même si on n'a pas l'information directement, le musée va constituer notre mémoire, va réalimenter notre nostalgie. Parce que vous savez, la nostalgie, c'est quoi? C'est le sentiment qu'éprouve l'oiseau loin de son nid. Quand l'oiseau est loin de son nid, il a toujours tendance à revenir vers son nid. Et le patrimoine qui est parti, nous estimons que ce patrimoine est encore en pleurs. Il doit revenir ici chez nous pour se reconstituer, faire corps avec les producteurs de ce patrimoine.
Professeur Kaouma, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.